figure qui a bercé nos jeunes années conserve durant toute notre vie un parfum à nul autre pareil. Et on pourrait citer Champollion. Le nom est devenu légendaire, à jamais associé à son décryptage des hiéroglyphes. D'une certaine façon, dans l'imaginaire collectif, Champollion, c'est un monument historique plus qu'un être humain. Pourtant, son histoire personnelle est profondément humaine, étrange. Diverses légendes entourent sa naissance, comme souvent, jadis, on le faisait pour les personnes exceptionnelles. On ne saura jamais si ces légendes de la naissance de Champollion étaient véridiques ou non. J'allais dire peu importe, c'était par ces signes à la lisière du surnaturel qu'on expliquait la naissance d'enfants différents ou handicapés. En tout cas, dès les premières années, le fil directeur de la vie de Champollion était posé. Ce seraient les langues anciennes. On s'est beaucoup extasié sur ses compétences en la matière, en énumérant des listes de noms de langues anciennes qu'il connaissait dès le plus jeune âge. Mais on oublie le revers de la médaille. Champollion était un enfant très peu doué pour les autres choses. Par exemple, il fut incapable d'acquérir ne serait-ce que les rudiments des mathématiques, ou encore, il avait besoin de l'aide constante de son frère dans l'organisation quotidienne de sa vie de jeune adulte. Notons toutefois que, contrairement à notre époque, la fin du 18e et le début du 19e siècle offraient une marge de manœuvre à ces profils différents. Il n'y avait pas, par exemple, de scolarisation de masse, et donc le système scolaire était très souple pour les enfants concernés. Des solutions sur mesure pouvaient être facilement créées. Pour autant, Champollion était plus qu'un excentrique, c'était un marginal. Voici les mots pudiques qu'avance un biographe de la fin du 19e siècle. Pauvre, ignoré, perdu, mal nourri, mal vêtu, cet étudiant bizarre étudie avec rage. Le tableau de sa vie obscure, de ses privations, de son travail de forçat, emprunte à la lointaine époque de 1808 un intérêt qui s'exhale vivace et attachant de ses pages jaunies. On découvre ainsi, mais est-ce vraiment une surprise que ces années d'école furent un cauchemar? Une des lettres de Champollion dit « S'il y a quelqu'un de contrarié et de malheureux dans le lycée, c'est moi. Ils me feront perdre la tête. Je ne puis souffrir mes camarades. » Car oui, quand on est différent, parfois à l'école, l'enfer ce sont les autres. À l'époque, on ne parlait pas de harcèlement scolaire. Et bien sûr, Champollion n'avait pas d'amis, à part un certain Vangéris qui était, paraît-il, d'humeur sombre et peu sociable et qui finit par abandonner les études et disparaître on ne sait où. Un autre autiste peut-être. En tout cas, Champollion semble avoir eu des troubles du comportement, mais les documents d'époque sont trop fragmentaires pour conclure avec certitude. Dans les écrits privés de Champollion, une chose écrase bien sûr les autres, son centre d'intérêt pour les langues anciennes. Certes, il semble avoir tenu un herbier, avoir fait un peu d'entomologie. Nous avons déjà parlé, Jérôme, de ces deux centres d'intérêt typiques des autistes de l'ancien monde. Mais les langues anciennes et les vieux livres primaient tout. Ses lettres à sa famille demandaient livres, toujours d'autres livres, tous tournant autour des langues mortes orientales. Chose assez curieuse qu'un jour il faudra que j'essaye de comprendre, comme la plupart des autistes amateurs de langues anciennes, Champollion avait une nette préférence pour le grec par rapport au latin. Mieux, il semblerait qu'il ait pris ses notes de cours ainsi que ses notes personnelles en hébreu. On a conservé la Bible hébraïque de Champollion enfant. Eh bien, il y a toutes sortes d'annotations de notes manuscrites en langue hébraïque, sans aucune surcharge ni hésitation, souligne son biographe. On ne sait presque rien de sa possible vie amoureuse. Dans sa correspondance, on trouve cette phrase d'une excuse pudeur. Je cite « Mes camarades connaissaient ma façon de penser et se gardaient bien de me faire des propositions qu'ils savaient bien d'avance que je refuserais. » Fin de citation. Champollion, malgré ses mille difficultés, avait eu deux chances dans la vie. Premièrement, d'avoir eu comme professeur des personnages au moins aussi bizarres que lui. Et comme par hasard, ses maîtres le jugèrent normal. Deuxième chance, celle d'avoir vécu à une époque où les puissants de ce monde, ainsi que les autorités universitaires, ne suivaient pas de procédures juridiques très strictes. C'est ainsi que tel ou tel roi a pu lui donner par caprice personnel une bourse. Le pape, de son côté, le soutint dans ses travaux et passa plusieurs commandes auprès du jeune érudit. Je parie qu'un carcan juridique trop strict aurait sans doute éliminé ces personnes un peu trop bizarres des opportunités de la vie. À présent, tout cela appartient à l'histoire. Champollion est mort jeune. Les hiéroglyphes et leur décryptage ne font plus du tout rêver notre monde contemporain. La véritable leçon pour notre époque que Champollion peut nous donner se cache sans doute dans l'une de ses lettres. En parlant de son unique camarade de classe, au moins aussi bizarre que lui, voici ce que le futur grand savant écrivit. Nous nous aidions mutuellement à supporter notre misérable existence. En vérité, l'entraide entre marginaux est peut-être une découverte plus précieuse encore que tous les hiéroglyphes.